Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Mieux comprendre ses névroses, mieux se comprendre, mieux se connaître, pour pouvoir être plus en harmonie avec soi-même, trouver une posture juste. C'est exactement ce que propose de faire mon invité du jour qui s'appelle Thierry Johnson, qui est un chirurgien belge devenu psychothérapeute et qui a une approche globale de l'être humain. Et ensemble, on parle de ses névroses, de comprendre comment elle naît en nous, mais aussi comment elle s'exprime à travers nos attitudes, mais aussi à travers nos corps, à travers nos relations, à travers notre éducation. C'est passionnant, je peux vous l'avouer, ce livre, je l'ai trouvé incroyablement enrichissant pour moi, donc j'espère que vous allez aussi adorer cette conversation, que moi je trouve très profonde, très douce, et en même temps extrêmement intense. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Thierry.
Bonjour. Bonjour Grégory.
J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de névrose. On va parler de posture juste, d'alignement. Je voudrais savoir comment vous êtes arrivé, vous, de votre côté, à ce genre de travaux sur vous-même.
Ah, d'abord, quand vous dites ce genre de travaux, je pense
travaux,
que...
Travaux sur soi-même,
oui,
j'entends.
Oui, mais ça parle d'un travail bien particulier qui est un travail à travers le corps. Et j'y suis arrivé parce que depuis tout petit, depuis l'enfance, j'ai un corps qui posait des problèmes, à savoir que les autres s'en moquaient beaucoup, que je n'étais pas à l'aise dans ce corps et que j'ai dû faire beaucoup de gymnastique médicale pour le corriger. Et puis, à la suite de ça, naturellement, en voulant m'adresser aux autres et à soulager la souffrance autour de moi, j'ai été vers la médecine et dans la médecine, j'ai choisi la chirurgie. Et donc, le corps était vraiment central. Je pouvais toucher, je pouvais sentir. C'était très important pour moi. C'était sans doute aussi un moyen de rester incarné. Parce que j'étais un enfant un peu mystique comme ça qui pouvait partir un petit peu en dehors de notre monde. Et lorsque j'ai quitté mon métier de chirurgien, naturellement, en m'intéressant plus à l'aspect psychologique de la personne humaine, eh bien, je suis allé vers ces approches dites psychocorporelles. Et c'est de ça que je parle, c'est cette posture qui est à la fois physique, émotionnelle, intellectuelle, cette présence dans le monde de toute notre être, de toute notre individualité indivisible. Mais voilà, c'est mon chemin qui m'a amené à avoir besoin de toucher la matière pour y rester.
C'est incroyable. En fait, je me pose aussi une question bête, mais comment on quitte le métier de chirurgien? Enfin, c'est un mouvement qui est pas simple. Ça demande des études qui sont tellement approfondies. C'est un métier qui est tellement fort que de le quitter pour aller vers une autre approche, même si finalement c'est éloigné, c'est pas éloigné parce qu'on est dans le soin de l'autre, bien sûr, mais c'est une approche différente malgré tout.
Mais vous savez, je n'ai pas quitté mon métier de chirurgien pour aller vers autre chose. Je l'ai quitté parce que je ne pouvais plus l'assumer. Et c'est un très beau métier, mais la manière dont je l'ai fait, qui était certainement guidée par par un besoin de réparer des blessures de l'enfance, un besoin de me rassurer, d'avoir une forme de reconnaissance. Et la manière dont j'ai pratiqué ce métier était épuisante, à savoir que je voulais gravir les échelons d'une hiérarchie universitaire. J'ai dépensé énormément d'efforts pour tout cela. Et arrivé vers l'âge de 33-34 ans, j'étais épuisé. Et comme je n'avais pas encore vraiment fait un travail sur moi, je n'avais pas vraiment regardé ce qui s'était passé en moi pendant toutes ces années, j'avais tendance à accuser le monde extérieur. Et naturellement, j'ai pensé que l'herbe serait plus verte dans un autre monde. Et comme ça, un matin, j'ai entendu une voix qui me disait, mais je l'ai vraiment entendue cette voix, « Si tu restes ici, tu vas mourir ». C'était le jour où je prenais des fonctions plus importantes dans la hiérarchie universitaire et j'ai vraiment entendu que si je restais là, j'allais crever. C'est vraiment les mots, c'est « tu vas crever ». Et je crois que c'est vrai, si j'étais resté, j'aurais tué en moi l'être beaucoup plus doux et moins combatif, moins agressif en tout cas. J'aurais tué le poète, j'aurais tué l'enfant intuitif que j'avais été et je me félicite d'avoir osé. Et en même temps, il m'a pas fallu oser parce que, vous savez, s'il y avait le feu à l'endroit où nous nous trouvons, je crois qu'on sauterait par la fenêtre pour pas se laisser dévorer par les flammes et il nous aurait probablement pas fallu beaucoup de courage. On aurait trouvé une voie pour sauver sa peau. Et moi, en quittant le métier de chirurgien et cette manière de le pratiquer, je sauvais ma peau. Donc, il m'a pas fallu du courage, il m'a pas fallu de réflexion. C'était naturel. Après, il a fallu du cran pour assumer les conséquences de ce choix, parce qu'il s'agissait bien d'un choix et pas d'une décision. Pour moi, je fais clairement la différence dans le sens où une décision résulte d'un exercice mental qui pèse les pour et les contre, alors que un choix, c'est tout l'être qui dit oui ou non. Et un choix ne se justifie pas. Il n'y a pas de pour et de contre. C'est tout l'être qui y va. Et après, on assume. On assume les conséquences de ces choix, mais on ne les regrette pas. Parce qu'on pouvait de toute façon pas faire autrement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Et que je continue à le vivre.
Non, mais j'adore. Je trouve ça hyper... Enfin, je suis assez touché, en fait. Et puis, cette douceur dont vous parlez, on l'entend énormément dans votre voix. Donc, ça me touche d'autant plus. Dans votre livre, qui s'appelle « La posture juste », vous parlez de 5 névroses. Et j'aimerais bien qu'on rentre dedans. Parce qu'en fait, ces 5 névroses, on les a toutes et tous, les 5. Moi, évidemment, je me reconnais plus dans une des 5, mais j'imagine, je vois un petit peu les autres pointer le bout de leur nez aussi. Moi, c'est très clairement beaucoup plus oral qu'autre chose. Mais j'aimerais qu'on les couvre et surtout qu'on parle, parce que moi, j'ai trouvé ça passionnant, de la posture physique, c'est-à-dire de l'impact de cette posture mentale Et l'impact que ça peut avoir sur notre physique et donc notre morphologie, finalement.
Oui, en fait, vous savez, moi, je... Oui, que dites-vous?
Non, allez-y.
Pardon, disais, je n'ai rien inventé. Hein. Ce que je présente dans ce livre, c'est quelque chose qui m'a bouleversé lorsque je l'ai découvert. Et je l'ai découvert grâce à la lecture ou à travers la lecture des ouvrages de Willem Reich, d'Alexander Lowen et de John Pyrakos. Et en fait, pour contextualiser ça, il faut simplement se rappeler que Willem Reich était un élève de Freud et qui, comme Carl Gustav Jung d'ailleurs, était très apprécié de Freud, mais en même temps, ces deux hommes ont été ses dissidents. Parce que Jung disait à Freud, il faut voir l'être humain pas simplement comme un ensemble de névroses au niveau de sa personnalité, mais voir qu'il y a une dimension plus profonde qu'il appelait le soi, hein, et cette dimension de conscience et donc d'esprit, de spiritualité. Et puis Reich disait, il faut surtout pas oublier le corps, parce que tout ce que nous vivons émotionnellement et au niveau de la psyché, au niveau de la pensée, a une inscription corporelle, a automatiquement une traduction même dans notre biologie et puis dans les mouvements, les postures, les élans énergétiques de ce corps. Et Reich a été très combattu par les psychanalystes parce que justement la psychanalyse proposait de analyser la pensée, analyser les émotions, mais pas forcément les vivre dans le corps. Et c'était d'ailleurs le produit d'une époque qui avait totalement exclu le corps, valorisant la démarche intellectuelle à outrance. Or, on sait aujourd'hui que un intellect, un mental, une réflexion ne fonctionne bien que si elle est inspirée, si elle est nourrie d'une information venant de la réalité matérielle, physique, de la réalité corporelle. Mais du coup, moi, quand j'ai découvert ces travaux venant de la chirurgie et de cet intérêt pour le corps qui était mon lieu d'incarnation alors que j'avais du mal à l'habiter quand j'étais enfant, ça a été une vraie révélation, la découverte des travaux de Reich et de Lowen, qui était un de ses élèves, qui avec John Pirakos, un autre de ses élèves, les ont prolongés dans ce qu'on a appelé l'analyse bioénergétique. Bioénergétique parce que libération de l'énergie de vie, hein, qui est contenue à travers toutes les tensions, les déformations de la posture, qui essaye de maintenir, de ne pas sentir toutes ces émotions, tout ce vécu psychologique dans le corps. Et donc, comme vous le disiez, Reich a montré que au cours de notre développement, nous avions différentes étapes que nous avons tous, auxquelles nous avons tous été confrontés, et que ces différentes étapes réveillent en nous des peurs qui mettent en branle des systèmes d'adaptation qu'on pourrait appeler presque systèmes de défense, qui sont carrément inscrits dans notre cerveau reptilien à un niveau de la survie. Hein, ce sont des comportements automatiques qui, à force de s'installer, deviennent conditionnés. Et Reich a montré que ces conditionnements, mettent en place des traits de caractère, et que ces traits de caractère, on peut les qualifier de névrotiques, dans le sens où la névrose, c'est un système de comportement qui recrée exactement ce que ces comportements étaient censés éviter ou permettre d'éviter. Je donne un petit exemple.
J'ai adoré cette idée d'ailleurs. Oui, allez-y.
Oui, mais c'est notre vie de tous les jours. Et vous parliez du fait que, à travers la présentation de cette personnalité, de ces traits de caractère, vous étiez particulièrement reconnu dans le trait de caractère dit oral, qui est lié à la peur de perdre le lien. Et qui fait que le lien qui s'est fait par la bouche chez l'enfant, hein, à travers la nourriture, et fait qu'après on appelle à ce lien, on recherche même parfois une fusion, on peut être très en demande d'être rassuré quant à la présence et à la pérennité du lien. Et ce trait de caractère oral, cette peur de perdre le lien, elle va mettre en place toutes sortes de comportements qui sont automatique, hein, des comportements de survie qui peuvent aller vers la recherche de fusion, et alors l'autre finit par étouffer dans la relation et il n'a pas d'autre choix que de s'en éloigner, et donc nous revivons la peur de perdre le lien. Ou alors on peut être dans une forme d'hyper-autonomie parce qu'on a tellement peur de demander le lien qu'on préfère dire qu'on n'en a pas besoin. Mais en fait, tout au fond de nous, on a une immense frustration parce que ce lien n'est pas là. Et donc, on se reblesse par notre comportement en ayant une absence de lien. Vous voyez ? Et c'est
complètement.
Cette névrose, c'est fascinant parce que plus je l'ai découverte, que je l'ai vue chez moi, et vous avez raison de dire que nous avons tous ces traits de caractère et tous ces comportements névrotiques, et qu'en même temps, on va pas forcément les voir tous au même moment. Ils vont se réveiller à certains moments de notre vie plutôt qu'à d'autres, et dans certaines interactions, parce que ça dépend des dynamiques relationnelles. Moi, je suis parfois avec des personnes qui sont très masochistes, comme on décrit dans ces traits de caractère, des personnes qui ne disent pas leurs besoins, qui ne disent pas leurs limites, parce qu'elles ont peur de perdre le lien si elles les montraient leurs limites. Alors moi, j'ai tendance à me comporter de façon un peu psychopathe, c'est-à-dire je domine la relation. Mais dans d'autres cas, je suis très masochiste, c'est-à-dire que parce que j'ai peur de perdre le lien, je peux me retrouver face à des personnes plus psychopathes que moi dans ces cas-là, qui commencent à dominer la relation et à nier complètement mes besoins que je n'ose même plus exprimer. Et vous voyez, ces dynamiques se mettent en place, se réveillent à certains moments, et plus on accepte de les regarder, plus on a une possibilité de ne pas tomber dans le piège, de ne pas recréer la souffrance que nous cherchions à éviter, et au contraire, d'avoir cette posture que j'appelle juste, parce qu'elle favorise beaucoup plus d'harmonie, de vie et d'énergie dans notre existence.
Merci. J'aimerais bien qu'on puisse les couvrir rapidement, les cinq, et que vous nous disiez, bah, typiquement un corps... qui est plutôt dans l'oralité, il ressemble à quoi ce corps ?
Ben, le corps oral, c'est un corps qui s'effondre. Et d'ailleurs, on peut le sentir hein, dans notre vie de tous les jours. On peut avoir des moments comme ça d'effondrement. Nos épaules tombent, le thorax se creuse. Et le creux de l'estomac, qui est justement le primum movens de ce mécanisme, hein, où au moment où le cordon ombilical a été coupé, l'enfant a ressenti l'hypoglycémie, puisqu'il n'était plus nourri par la mère. Et cette hypoglycémie, la nature est très bien faite, elle se manifeste au niveau de l'estomac, puisque c'est cet estomac qu'il va falloir remplir. Et elle se manifeste par une sensation de vide. Et tout le corps peut s'effondrer autour de cet estomac, les épaules tombent, le thorax se creuse, le regard est à la recherche d'une aide extérieure. On envoie comme ça de l'énergie pour pomper le monde extérieur. Et les autres finissent par trouver qu'on leur pompe l'air et ils s'éloignent. Mais du coup, la réponse à cet effondrement, l'ajustement, c'est de se redresser et de se sentir rempli de l'intérieur. C'est-à-dire, bon, c'est peut-être un peu compliqué d'expliquer ça comme ça, sans qu'on voie le corps, mais si j'étais devant vous là, en présence, je vous mimerais ce geste de se redresser, de remplir la poitrine, et à l'expiration, de sentir ce souffle qui descend vers l'estomac. Ça change tellement la perception intime, la perception au niveau du cerveau reptilien, que tout de suite, il y a un sentiment de réassurance, de sécurité, qui fait qu'on est beaucoup moins dans la demande d'être rempli par le monde extérieur.
Quelque part, on s'ancre. Non, enfin, j'ai l'impression que quand je vous écoute, j'entends cet ancrage.
Oui, l'ancrage, vous savez, moi je suis pas d'une formation chirurgicale pour rien, je veux dire quand on pratique la chirurgie, il faut être très précis, il faut être dans le discernement, et je pense que ce que j'essaye de faire, c'est une vraie chirurgie de l'âme, c'est-à-dire de vraiment comprendre d'où viennent les mouvements et les postures, d'où viennent ces névroses, et d'agir vraiment à leur origine. Alors, la première grande névrose que nous avons, elle est liée à la peur du contact. Et le contact qui est douloureux pour l'enfant qui arrive dans ce monde, c'est assez terrifiant, tous ces contacts rudes, froids, ou très contrastés. Et la première réaction face à une peur de contact, eh bien, c'est la déconnexion, qu'on peut appeler la fuite, mais avant même de fuir, c'est se déconnecter. On peut se déconnecter par la pensée, partir dans ses rêves, ou effectivement, on peut se déconnecter en prenant ses jambes à son cou. Mais c'est la première défense du vivant qui avait fait écrire à Henri Laborie l'éloge de la fuite. Parce que ça soit un animal dans la savane ou une cellule dans un laboratoire, une cellule sur laquelle on déverserait un produit toxique, la première réaction, c'est le retrait, c'est la coupure de contact. Et du coup, on se déconnecte de notre ancrage, on se déconnecte de la réalité, du ici et maintenant, des contingences du monde physique qui peut nous faire peur, et on a tendance à partir dans nos rêves. Et donc, oui, c'est un ancrage à la fois psychologique qu'il faut, être présent, accepter le réel tel qu'il est, l'embrasser tel qu'il est, et physique, et rester dans notre corps, rester en contact avec nos sensations et rester en contact avec la terre. Et énergétiquement, ça se manifeste, et les orientaux qui ont beaucoup travaillé le corps l'ont très bien compris, notamment dans le yoga ou le qigong, ça se manifeste par déverrouiller les genoux, sentir le poids du corps venir à la rencontre de la terre, faire respirer profondément jusque dans son bas-ventre et sentir qu'on a des jambes. Hein. Donc, c'est vraiment à la fois énergétique, psychologique et physique. C'est tout l'être qui est convoqué dans cet ancrage. Mais juste après, eh bien, il y a, comme on l'a dit là tout à l'heure, la peur de perdre le lien, parce qu'une fois que le contact est fait, il y a un lien. Et le lien passe par la nourriture, et au départ. Et donc, cette sensation de vide dans l'estomac, avec cet effondrement, est l'ajustement nécessaire, qui est au contraire de se redresser, de se rendre compte qu'on a des ressources intérieures, qu'on n'est pas que dépendant du monde extérieur. Mais juste après, et c'est au moment où l'enfant commence à vivre son autonomie vers 1 an et demi, 2 ans, qu'il est confronté aux exigences du monde extérieur, en particulier aux exigences des adultes qui s'occupent de lui. Et alors l'enfant va rentrer dans une phase de non. Il va dire non à tout pour exister comme il l'entend. Et quand ce non n'a pas pu être dit clairement, il est d'ailleurs très difficile de dire oui franchement, parce que tant qu'on n'a pas pu dire non clairement, on n'est pas en sécurité, donc on ne peut pas dire oui franchement non plus, donc on biaise un peu, on dit oui mais on fait quand même non, et on rentre dans cette attitude que je qualifie, comme Reich le faisait, de masochiste, parce qu'on ne dit plus ses besoins, on ne dit plus ses limites, tout ça pour ne pas perdre le lien plus profondément dans notre oralité. Et alors, on vit un peu caché dans un corps qui contient l'énergie, qui contient la colère, parce que la colère est liée à un besoin, et donc on n'ose pas dire ses besoins, mais du coup on sort pas ses colères non plus, ou quand on les sort, elles sont inappropriées, exagérées, explosives. Et ce masochisme demande vraiment d'apprendre à s'ajuster en s'ouvrant, en osant s'exprimer, en ne bloquant pas la gorge, en disant sa vérité, en prenant conscience de ses besoins et en osant les confier aux autres. Mais alors, il y a un quatrième événement, c'est que l'enfant, surtout quand il commence à analyser les situations vers l'âge de 4, 5, 6, 7 ans, il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très cohérente, que les adultes le manipulent parfois avec des discours qui ne sont pas toujours très très alignés, et l'enfant commence à se sentir non seulement trahi, mais il se demande même s'il a de la valeur, et il a une forme de blessure narcissique. On parle aujourd'hui de perversité narcissique. Personnellement, je préfère reprendre ce que Reich nous proposait et d'appeler ça de la psychopathie. Bien sûr, c'est pas la psychopathie des tueurs en série, mais il y a une petite psychopathie ordinaire que nous avons tous et qui est de manipuler les autres, de pas toujours, de vouloir les séduire déjà, hein, ou alors quand ils échappent à notre contrôle.